Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Cédric Chatelus, Valentin Zanzilinski et Julie Garraud. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Lucille Como, Charlotte Garçon et Philippe Azouré pour parler ensemble de Amine, de Philippe Faucon, Girl, de Lucas Dont. Il y aura un coup de cœur, celui de Philippe Azouré ce soir pour une sortie en DVD de Une page folle de Teinosuke Kinagusa. Et puis un petit salon de Lucille Como consacré aux scènes de sexe au cinéma. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour aller voir le spectacle Laïka d'Asciano Celestini samedi 20 octobre à 21h au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau film de Philippe Faucon, Amine, qui succède à Fatima, lauréat de 3 Césars et du prix Louis de Luc 2015. Entre-temps, le cinéaste avait aussi réalisé une mini-série pour Arte, Fierté, sur les années SIDA dont nous avions parlé ici. Amine est donc l'histoire d'un Sénégalais qui travaille en France sur des chantiers depuis de longues années, qui vit en foyer, qui ne retourne dans son pays pour voir sa femme et ses 3 enfants que très rarement, mais leur envoyant chaque mois le plus d'argent qu'il peut. Et puis sur un chantier, Amine va rencontrer Gabriel.
C'est un homme sapé qu'on a tout dit.
Vous connaissez le chemin?
Oui, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Amine, vous faites une pause?
Voilà la bande-annonce, version sonore de Amine de Philippe Faucon qui est sortie mercredi sur les écrans. Et c'est Charlotte Garçon qui commence à nous en parler.
Oui, peut-être que le titre est un tout petit peu trompeur parce qu'il donne l'impression d'un portrait isolé, comme ça, une espèce de médaillon. En réalité, moi, ce que je trouve intéressant dans le travail de Philippe Faucon et qui se poursuit ici après Fatima, donc très souvent des films avec des prénoms pour titre, c'est que sous le portrait, c'est-à-dire que le portrait n'est pas centripète. Donc, à chaque fois, on entoure, on voit mieux la personne en voyant les relations qu'elle entretient avec d'autres. Ça paraît simple, ça paraît être la base de l'écriture de personnages dans un film que d'écrire aussi leurs relations. En réalité, je trouve que Philippe Faucon est l'un de ceux qui maîtrise le mieux l'art du portrait au cinéma aujourd'hui, avec peut-être Alain Cavalier, mais dans un tout autre registre, puisque Cavalier va plutôt vers l'autoportrait et vers une sorte d'ascèse. Alors, ascèse qui existe aussi chez Philippe Faucon dans l'ordre de la dramaturgie, puisque quand les choses commencent, dans mon souvenir, on est sur un chantier de démolition et donc on voit Amine au travail. C'est un travail dur, physique, difficile. Et quand on voit poindre ensuite, comme on l'entend là dans la bande-annonce, l'histoire d'amour, on se dit il va y avoir drame, mais il va y avoir sujet, il va y avoir cette dramaturgie qu'on connaît un peu trop du problème, du couple mixte, qu'est-ce qui va arriver à ce couple, etc. Et la beauté du travail de Faucon, c'est de neutraliser un peu tout cela, c'est-à-dire de dédramatiser, en tout cas de porter attention au visage et au corps, à ce qui se passe entre les gens, sans forcément courir courir vers le nœud dramatique et le scandale, par exemple, que ça peut provoquer. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'il fait un geste un petit peu audacieux dans son montage, pour lui en tout cas, pour le côté un peu bressonien qu'on lui connaît d'habitude. Là, il va nous emmener très tôt au Sénégal, par une coupe assez brutale. On est très très loin, tout à coup, de la France. Et la femme d'Amine, Aïcha, est en train de se doucher dans une scène très d'ailleurs sensuelle, enfin très et surprenante. Tout à coup, on est téléporté très loin, et je trouve que c'est une audace qui fonctionne dans le film. C'est-à-dire qu'on est, on vit cet écartèlement un petit peu du personnage entre ici et là-bas, pas à la manière d'un sujet là encore, mais on passe d'un personnage à l'autre. On glisse, disons, d'un portrait à l'autre, et c'est appréciable quand même, cette honnêteté, je dirais, par rapport à chacun des personnages. Et aucun des personnages ne m'a semblé être une marionnette, disons, du scénario, ou une fonction qui serait là pour entourer le personnage principal, le manipuler, le faire aller d'un lieu à l'autre. Donc déjà, cette espèce de plénitude-là du portrait me touche.
Lucile Comeau, premier regard sur Amine de Philippe Faucon.
Oui, c'est un film qui est construit en rapport avec Fatima. C'est évident, puisque Fatima apparaît d'ailleurs dans le film. À un moment, Amine se rend dans une agence pour donner de l'argent à sa famille au Sénégal. Et au guichet, à côté de lui, il y a Fatima. Et je pense que c'est plus qu'un clin d'œil. Je pense qu'en effet, ce que vous disiez, Charlotte, il est en train de construire une sorte de constellation de personnages qui sont touchés par la même réalité de l'immigration. Du coup, c'est extrêmement large, parce qu'entre Fatima et Amine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'expériences différentes. En tout cas, une constellation qui est aussi un réseau de solidarité, je pense, et c'est ça qui est assez beau aussi dans le projet, c'est que rien n'est très appuyé, il n'y a aucun discours généralisant sur le phénomène, mais de fait, dans l'empathie que les films portent à leurs personnages, il y a une vraie, à mon avis, solidarité qui se met en branle. Il y a un moment, je trouve assez beau, où Amine rencontre un personnage au Sénégal, un jeune homme qui lui fait part de ses projets de partir et éventuellement même de prendre le risque de prendre une pirogue et de partir illégalement. Et il lui dit, de toute façon, c'est ton choix. Et chez Philippe Faucon, tout est question d'individualité, de choix d'individu à un certain moment, dans un certain espace-temps. Mmh. Et ça, je trouve ça assez réussi. On en reparlera peut-être avec le film suivant. C'est pas toujours facile. Moi, je trouve que c'est un film qui tient au montage. Vous avez parlé de cette coupe brutale. Toutes les coupes, toutes les mises en rapport de scènes, qu'elles soient sénégalaises ou françaises, disent énormément du parcours des personnages. Et c'est extrêmement fin. Je pense par exemple à la manière dont arrive la première rencontre physique entre les deux personnages, donc entre Amine et la femme qui est une personne chez qui il travaille. Elle est précédée, tout juste précédée, par une forme de leurre, en fait, une scène où un client engueule un peu les ouvriers en leur disant « mais ce sera jamais prêt ». Enfin, une sorte de cliché de ce que sont les rapports entre quelqu'un qui fait refaire sa maison avec les ouvriers sans papier qui l'emploient. Et c'est une sorte de leurre qui est placée là pour montrer à quel point la romance qu'offre le film est un espace ouvert d'un seul coup, une sorte de brèche qui s'ouvre à un endroit de la réalité qui n'existe pas ailleurs que dans le film. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé le film très dur, j'ai été très émue, parce que je pense que c'est un espace qui de fait a fini par se clore à la fin. On entendait dans la bande-annonce, juste je finis là-dessus, Emmanuel De Vos dit « faites une pause, ce n'est qu'une pause en fait, cette histoire d'amour, et la fin est très dure ». Moi j'ai été très affectée par ce film.
On n'a pas encore entendu Philippe Azoury sur Amine.
Non, c'est vrai,
on
n'a pas encore entendu.
Ça y est.
Moi je suis, vis-à-vis du cinéma de Philippe Faucon, je suis un sort d'éternel déçu. Peut-être parce que j'en attends trop. Mais un déçu tendre. Enfin, c'est une position un peu délicate parce que j'ai toujours l'impression, quand je vois ces films, je pense que c'est un type très bien. Je ne l'ai jamais rencontré, donc je peux le dire comme ça. Je pense qu'on ne fait pas ce cinéma depuis si longtemps, depuis une quinzaine d'années, avec des portraits. Je veux dire, c'est pas du tout un procès d'intention que j'ai envers lui, parce que je pense qu'il a, vis-à-vis de ses personnages, une profonde, mais plus que de l'empathie, enfin, intelligence, combat pour eux. Et de plus en plus, c'était déjà un peu le cas dans Fatima. C'était beaucoup le cas dans la série Fierté qu'il a tournée, la mini-série pour Arte en 3 épisodes sur les luttes LGBT qui a été diffusée au printemps et qui, je pense, a dû être tournée quasiment en même temps qu'Amine et qui lui ressemble par endroits. Je trouve, et là, dans Amine encore plus que jamais, je trouve de plus en plus que ces personnages ont du mal à servir, à être autre chose. Et justement, Charlotte disait, ils sont pas une fonction. Moi, je trouve qu'ils ont du mal à être autre chose qu'une fonction d'un scénario qui est pour eux, qui est taillé pour eux, qui se bat pour eux, mais qui, d'une certaine manière, ne les laisse plus assez respirer. C'est presque... C'est étrange, c'est paradoxal, parce que d'un côté, et là aussi, Charlotte disait bressonien, et de plus en plus, je trouve que le début de Fierté ressemblait... Le premier épisode est très bien, le deuxième et le troisième, j'aimais beaucoup moins, mais le premier épisode, il y avait quelque chose du Bresson, de l'argent. Mmh. Dans le tout premier quart d'heure de Amine, il y a quelque chose, et même dans la première séquence dont parlait Lucille sur le chantier de démolition, il y a vraiment quelque chose de l'argent. On voit qu'il vise une économie qui est très très stricte, très très sèche, il n'y a pas de gras, etc. Et en même temps, j'ai vraiment... de plus en plus envie que dans son cinéma, il tourne des scènes inutiles. Des scènes qui ne serviraient pas juste d'étendard. Et le jour où il faut qu'on remettra un peu comme ça d'énergie, d'inutilité ou d'air à l'intérieur de son cinéma, je pense qu'on aura quelque chose d'admirable. Mais vraiment, parce que je pense que c'est quelqu'un de très bien. C'est ça, je lui reproche beaucoup parce que je pense qu'il est très bien et qu'il peut aller beaucoup plus loin.
Ah, moi, je vous partage sur le fait que c'est quelqu'un de très bien. Moi, j'aime, c'est vrai, beaucoup, beaucoup ses films depuis longtemps. Alors, pour le coup, pour l'avoir interviewé quelques fois, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de très bien.
Oui, il n'y a pas de procès d'intention.
Mais j'ai dit toutes mes réserves qui étaient nombreuses sur cette mini-série Fierté dont vous parliez à l'instant. J'en ai aussi quelques-unes concernant Amine qui sont pas tout à fait les mêmes, quoique il y a des problèmes scénaristiques, moi, dans ce nouveau film Amine qui me pose problème. Et en premier lieu, cette histoire d'amour entre Amine et Gabriel qui, pour moi, ne fonctionne pas. Enfin, il n'y a aucun moment où ça fonctionne. Parce que on comprend bien cette histoire d'altérité, mais il me semble que le vrai sujet, c'est l'altérité au sein même d'Amine. C'est-à-dire le Amine qui travaille en France et le Amine qu'on voit avec sa famille au Sénégal. Et que moi, ça me passionne absolument, ces moments-là, ces moments de chantier, ces moments de vie de foyer. Sont des choses qu'on voit très très rarement dans le cinéma et dans le cinéma français. Et je trouve que c'est important de montrer ce que c'est que la vie quotidienne, la vie matérielle. Et je trouve que il me semble pas que Philippe Faucon s'était aventuré comme ça dans des territoires lointains. Et je trouve qu'il le fait formidablement bien avec une sorte de délicatesse, mais qui n'est pas du tout pour enjoliver quoi que ce soit. Il montre des beaux rapports humains et voilà, j'avais envie que ça creuse de ce côté-là et du coup ça m'a semblé, et c'est pas contre Emmanuel DeVos non plus, mais comme une pièce rapportée purement scénaristique qui ne marchait pas sur moi. Lucille Como ?
Oui, mais je vois très bien ce que vous voulez dire, mais moi ça ne me gêne pas et je pense que c'est justement dans cette artificialité-là que tient toute l'ambiguïté et le drame en fait qui se noue à la fois entre les deux personnages et du coup qui irrigue tout le film. Je reviens à ce que vous disiez, Charlotte, sur le fait qu'en effet il y a plusieurs personnages qui évoluent autour d'Amine. En fait, ce qui est très beau et très fin, c'est que le drame le plus poignant et le plus spectaculaire, il se situe juste à côté
c'est
quand même extrêmement habile. Enfin, c'est pour le coup, à mon avis, une leçon en termes de scénario. Je trouve le scénario vraiment splendide.
Charles Garçon.
Oui, ou plus exactement de découpage. Enfin, c'est-à-dire le scénario, mais tel qu'il est déjà envisagé dans les petits touts qui vont constituer ces séquences et lesquelles sont plus dilatées, lesquelles sont plus brèves. Et c'est là où je parlais de Robert Bresson, parce que Robert Bresson disait tout se joue dans les interstices. Et il a bien compris. Enfin, c'est aussi ce qui anime le cinéma de Philippe Faucon. C'est-à-dire que d'un côté, on a une évidence qui fait qu'on est proche de la platitude, de la chronique, voilà, on se dit, mais au fond, il n'y a pas de drame, voilà. Et puis, d'un autre côté, en réalité, plus le film avance, et c'est là où je pense que, du point de vue du scénario, il y a effectivement une construction un peu souterraine, et plus on sent une inquiétude très forte et qui va culminer dans ce qui arrive à ce personnage d'Abdelatif qui est cet homme marocain qui vit dans le même foyer et qui travaille alors qu'il est très âgé aussi sur des chantiers. Et effectivement, vous avez raison, on pourrait dire que c'est un personnage périphérique, mais il n'y a pas de personnage périphérique. C'est ça
absolument.
C'est ça la force aussi de ce cinéma. Après, ce qui... ce qui vous frustre, j'entends bien, c'est aussi ce qui m'avait déçu dans Fatima. C'est-à-dire que moi, j'avais eu l'impression dans Fatima d'un portrait tendu vers une forme de didactisme, c'est-à-dire de nécessité de dire c'est possible, avec cette solidarité ou avec le courage individuel, on peut arriver à monter, faire gravir des échelons dans la société, à sa progéniture, par exemple, c'était le cas pour Fatima, et ça m'avait un peu, ça m'avait semblé être une espèce de portrait, un peu d'exemplum, qui m'avait un peu agacée par son didactisme. Là, au contraire, l'histoire d'amour, on pourrait croire qu'elle prend la voie d'une sorte d'égalitarisme en se disant l'intersectionnalité des luttes. Il y a d'un côté l'ouvrier exploité par les patrons, d'autant plus qu'il est sans papier, et de l'autre, la divorcée, alors qu'il n'a pas de problème d'argent, mais qui, elle, est de toute façon, son ex-mari la traite comme une employée, quelque part. Il y a vraiment un rapport là, de domination masculine. Justement, il ne va pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne se permet pas de mettre sur le même plan ce type de rapport. Parce que ce serait obscène, quelque part. Il fait très attention. On voit bien que ce couple recherche une forme d'égalitarisme dans ce qu'il vit, dans l'instant, dans la parenthèse, puisque tous deux sont séparés. Hein. Tous les deux sont dans une forme de solitude, qui renvoie encore au personnage de Bresson, d'ailleurs. Vraiment de solitude profonde. Mais il ne va pas jusqu'à déduire regardez, c'est pareil, finalement. La condition des femmes et la condition de l'ouvrier, quelque part, se retrouve. Heureusement, il ne va pas jusqu'à cette équation-là.
Philippe Azoury.
Non, c'est pour conclure. Je pense que c'est la place d'Emmanuel De Vos qui m'a beaucoup étonné. Parce que c'est un truc très, très, très casse-gueule d'intégrer une star, à quelque niveau que ce soit, à l'intérieur d'un jeu qui prend beaucoup du réel, beaucoup d'acteurs non professionnels. On se souvient, je ne sais pas, par exemple, pour moi, Bruno Dumont n'y arrivait pas avec Juliette Binoche dans le Camille Claudel il y a quelques années. C'est à ça que je repensais en voyant le film. Là, il y arrive. C'est-à-dire que là, donc il y a quand même, en termes de direction d'acteur, quelque chose qui est très fort, parce que effectivement, je suis comme vous, Arnaud, c'est-à-dire je ne pense pas que ça fonctionne en termes de scénario, mais je ne les vois pas, quand je les vois tous les deux, je ne vois pas la star
c'est
d'un
vrai.
Côté
oui,
jouant
tout à fait vrai.
Ou sous-jouant.
Ils sont ensemble dans la scène, niveau. Absolument.
Il y a à ce moment-là deux êtres humains, deux solitudes.
Ouais, ouais.
Charlotte a vraiment, vraiment raison là-dessus. C'est ce qui rend le film si dur au final. Voilà. Et cette scène presque inutile que j'appelle toujours dans son film.
Vous êtes en train d'écrire.
Mais non, mais elle arrive presque à la quasi-fin quand justement, j'ai oublié, c'est Abdelatif, l'ouvrier maghrébin, lorsqu'il dessine sur la fenêtre, c'est très très beau comme ça. Il dessine un prénom féminin et voilà, il en manque pas énormément. Il manque trois petites scènes comme ça. Et à un moment donné, enlèverait le didactisme profond et lourd du film.
Pour finir, Lucille Comor.
Enlèverait peut-être aussi son côté radical. Moi, je pense que je tiens justement au côté extrêmement épuré parce que de toute façon, c'est une posture et qu'on ne peut pas la. C'est où on la tient ou on ne la tient pas.
Non, pas tant parce qu'il est radical sur le. Il est économe surtout sur le son, sur les dialogues, sur la durée des plans. Ça, il sait très bien le faire. C'est vraiment juste de laisser un peu de respiration pour que ces personnages ne soient pas que des pages de scénario qui se tournent.
Lucille.
Juste sur le dysfonctionnement entre les deux personnages, je trouve ça justement assez passionnant. Je pense que c'est au cœur de l'histoire. C'est pas quelque chose qui fonctionne pas. C'est écrit, le fait que ce couple ne fonctionne pas.
Il
est complètement
décalé.
Oui. En fait, c'est absolument aberrant. Et je pense que c'est écrit comme ça. Et que c'est ça l'histoire. Mais bon.
Bon, non, ben ça, alors là, on va se lancer dans les débats sur les conceptions de l'écriture de scénario. Pareillement, l'ex-mari, enfin, la façon dont il est écrit, c'est quand même problématique aussi.
La gamine.
Oui. Enfin bon, bref. Mais bon, on ne peut pas parler que d'Amine ce soir, parce qu'il y a d'autres choses à notre programme et d'autres films. Amine, en tout cas, de Philippe Faucon, est sorti mercredi dernier sur les écrans. On vous invite évidemment à aller voir ce film. On va parler dans un instant de Girl, de Lucas Donte. Il y aura le coup de cœur de Philippe Zory. Il y aura un petit salon de Lucille Comeau.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au cinéma en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, On vous attend tous les vendredis, bien sûr, pour ces émissions. On va parler à présent de Girl, de Lucas Dont, qui a reçu à Cannes la Caméra d'Or. C'est donc le trophée qui récompense le meilleur premier film, toutes sélections confondues. Le film va suivre le parcours de Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile et qui est née garçon. On va la suivre entre classe de danse et parcours de transition.
We gaan de vrouwelijke puberteit zo goed mogelijk nabootsen. Maar de effecten zijn dus wel onomkeerbaar.
C'est pas compliqué. Tu veux qu'on prenne pour une fille ou pour un mec?
Fille.
Et voilà.
Je te demande comment ça va parce que tu ne dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va.
Il y a une raison, non?
Il y a une raison de quoi? Pourquoi tu ne dis plus jamais rien?
Ah, c'est peut-être parce que ça va pas.
Wat toch niet opgeven, hè?
Ah, nee.
Oh, come on, vooruit. Stop! T'es dans une des meilleures écoles de danse du pays. T'as des médecins qui te suivent. Tout se passe bien. Hein? Tout se passe bien.
Girl de Lucas Dont est donc sorti sur les écrans ce mercredi. C'est Philippe Azoré qui commence à nous en parler.
Ah, d'accord.
Ben oui, t'es comme ça.
Ben oui.
Il n'y a pas à discuter, c'est à vous.
Je vois bien, je m'exécute. Avec, plutôt avec joie d'ailleurs, parce que c'est un film que j'ai mis beaucoup de temps à voir. Je l'ai raté à Cannes, en tant que projet de presse, je l'ai vu hier soir, en salle. Et j'en suis ressorti avec une très très forte impression. Enfin, je sais pas pourquoi, je craignais un peu. Je craignais un peu beaucoup. Je craignais beaucoup de ce film-là. Je craignais ce qu'on appelle dans le jargon les labs. Vous savez, les labs, c'est tout ce processus de préécriture, laboratoire. On voit ça dans les festivals. Et Lucas Dont est passé beaucoup en tant que jeune cinéaste. Il est très jeune, je crois qu'il a quoi?
27 ans, je crois.
Très très jeune. Il est passé beaucoup par ce type de formation et ça a tendance à formater, précisément. Et j'avais peur de ce formatage-là. Je ne l'ai pas trouvé, presque pas trouvé. Je ne le trouve pas très efficace sur l'utilisation de la musique sur le film, mais c'est presque accessoire. Je trouve que c'est un film qui est incroyable dans sa façon de déplacer avec intelligence son sujet vers d'autres sujets. C'est-à-dire son sujet qui est la réassignation sexuelle, la transition M to F, male to female, de Lara. De le remettre à sa place, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire sur le corps, qu'est-ce que c'est comme douleur physique, et le fait que Lara soit une étudiante à l'intérieur d'une classe de danse le remet à sa place, qu'est-ce que ça veut dire aussi comme problème psychologique, comme décision ferme à prendre, à ne pas reculer, ça aussi c'est assez magnifique dans le film, notamment à travers le père, qui est un personnage que je trouve incroyable, merveilleusement joué par ailleurs.
Parier Vortalter qui joue ce rôle-là.
Mais vraiment, avec un personnage qui est incroyable, parce que on s'attend au cliché de la famille qui veut pas. C'est pas du tout ça. C'est le père est cool. La mère n'existe pas. Très fort, parce qu'on voit bien que ça remplace quelque chose, mais ça n'est pas dit. La psychologie de ce côté-là. Il y a de la psychologie ailleurs, mais la psychologie de ce côté-là est évacuée. Et le père est là. Et ce père qui est cool, qui accepte tout, qui a une intelligence qui est à fond derrière Lara, il y a aussi des moments où il a peur pour elle, mais c'est pour sa santé. C'est-à-dire que c'est pas un problème de choix, de changement de genre sexuel, c'est un problème de qu'est-ce que cette transformation-là provoque en toi. Et tout ça, je trouve que Lucas Dont arrive à le filmer. C'est peut-être pas un très grand filmeur encore, il apprend beaucoup à apprendre sur l'espace, sur les durées, mais il arrive à le transmettre, et notamment avec, je pense que ce soit Charlotte ou Lucie, elles en parleront, enfin Victor Postler qui est son acteur, qui est juste, enfin voilà, il y a un moment comme ça d'hallucination devant une voix, un corps jeune qu'on n'a jamais vu jouer, qui est juste tout le temps. Ce qui me fait aussi penser, c'est ma dernière parenthèse, je passe le micro après, mais que de Sherazade, je pense à Sauvage aussi, Le Kechiche aussi cette année, on a quatre films d'auteurs qui remettent la question de l'acteur et de la direction d'acteur avec des acteurs qui n'avaient jamais joué au centre du problème et s'en sortent incroyablement bien.
Oui, vous passez le micro à Lucille Como pour parler de Girl.
Oui, alors pour rebondir juste sur l'acteur, c'est vrai que c'est le film d'une performance d'un acteur et que c'est d'autant plus, pour le coup, intéressant que c'est un film sur la performance. À la fois la performance physique de ce que c'est que d'être en transition et d'accepter les traitements qu'on doit subir pour faire une transition physique et la performance de la danse classique, ce que c'est que de souffrir comme toutes les jeunes filles qui veulent faire de la danse classique. Bon, de ce point de vue, c'est assez intéressant, je trouve. Que ce soit un jeune acteur qui interprète ce personnage. Après, bon, je commence par le positif, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je trouve... c'est un film dont je suis assez gréée de ne pas tenir un discours justement généralisant sur les personnes trans et de coller vraiment un personnage, encore une fois, dont la volonté propre et la subjectivité est le seul point de vue qu'on peut avoir sur la question. Donc, à la limite, je trouve que c'est même pas vraiment la question et que ça, c'est plutôt pas mal. Pour autant, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans le film et ça tient en partie au personnage du père dont vous avez parlé. Je suis pas, pour le coup, totalement en désaccord avec vous. Je trouve pas du tout que ce soit un personnage bien construit. Je trouve que ce personnage évolue dans un climat d'une bienveillance et d'une douceur qui est presque aussi cliché que le cliché dont il essaye d'être le contrepoint. C'est-à-dire que c'est totalement irréel. Le personnage du père, pour moi, n'existe absolument pas dans sa psychologie. Quelqu'un de cette bienveillance, de cette tolérance, de ce sang-froid, n'est pas un personnage réel.
Je l'ai rencontré, hein, Lucie.
Ah bah alors, pas moi, vous avez de la chance. Et du coup, je trouve que ça pose même un problème dans la réception qu'on a du film. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est que c'est tellement nimbé de douceur et de bienveillance dans le début qu'on attend, on se met dans la position d'attendre la crise et d'attendre le problème. Et je trouve que ça pose même un problème éthique de créer ce type d'attente chez le spectateur sur le personnage. On attend que le personnage se blesse,
on attend
que le personnage...
C'est pas tout à fait la même chose.
Et ben moi, j'aurais tendance à l'attendre, tout simplement. Et je trouve que... Je sais pas, moi, ça m'a posé un petit problème. Et c'est lié au formatage de la mise en scène. Moi, je vois des gros tics d'une génération de cinéastes. Bon, là, en l'occurrence, il n'est pas français, mais de tout un style de cinéma, peut-être européen ou français, dans les couleurs, l'utilisation permanente de cette lumière un peu jaune qui nimbe dès la première scène, qui est une scène assez douce, où la jeune fille se réveille avec son petit frère. Il y a un rideau qui laisse entrevoir un lever de soleil absolument orangé. Toutes les couleurs, les bleus qui rappellent le bleu des yeux. Enfin, je fais un peu des obsessions sur ces couleurs-là, mais je trouve que ce sont des tics, de la même manière la musique et les moments un peu clip. Vraiment, me gêne. Moi, ça me gêne parce que je suis pas sûre que ce soit accessoire. Je pense que ça représente quelque chose aussi dans le fond, dans ce que dit ce film, du personnage qui l'entreprend.
Alors, écoutons à présent le sentiment de Charlotte Garçon, avant que j'intervienne aussi. Hein.
Oui, il me semble effectivement que Lucas Daunt coche des cases de choses à ne pas faire. C'est-à-dire, justement, pas de sujet, pas de grande thèse sur la transition d'un sexe à l'autre, pas d'idéologie. Et pour cause, c'est une adolescente. Elle a 15 ans et l'acteur, en fait, le danseur, vous dites acteur, mais il a été choisi parce
aussi
qu'il est danseur.
Ah oui.
Et puis, voilà, il n'y a même pas de...
Il n'en est pas moins acteur.
Non, là, il est acteur dans le film, bien sûr.
Non, mais il n'en est pas moins acteur. Dans les scènes jouées, il a en positionnement de voix, en technique d'acteur, il est bluffant.
Mais moi, j'ai effectivement eu l'impression d'un film qui cochait les choses à ne pas faire et qui, effectivement, ne les faisait pas. Et notamment autour de... on a compris que c'est un fait. Lara est une jeune fille. Et ça, c'est sa force quand même. C'est la force de tout à coup nous dire, c'est pas le problème. Même à 15 ans, on peut être absolument sûr de son identité sexuelle, y compris quand on n'est absolument pas sûr du tout de son orientation sexuelle. Mmh. C'est un point qui est abordé par le père et par le psychiatre ou psychanalyste dans le film. Alors tout ça est plutôt intéressant au début. Et effectivement, au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, je vois ce qu'il ne veut pas faire, je ne vois pas ce qu'il veut faire. Et c'est, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a s'entrecroisent des questions de teen movie, hein, de rapport au corps, de rapport à son propre corps qui n'est pas forcément le corps qu'on voudrait avoir, sauf que là, évidemment, c'est hyperbolique, puisqu'il y a un organe trop protubérant, dirons-nous, et d'autres qui ne sont pas assez protubérants. Bon, ça, j'ai compris. Et puis, il y a ce film de danse qui est plutôt agréable à voir pour moi. C'est-à-dire que j'aime les scènes de danse, même si j'ai l'impression que c'est toujours la même chorégraphie qui est travaillée.
Tout fait en trois jours.
Je crois pas, mais Sidi Larbi-Cherkaoui qui signe les chorégraphies, voilà, a un certain type d'esthétique et c'est celle-là qu'on voit dans le film.
Beaucoup de déboulés, beaucoup qui me semblent un tout petit peu tirés vers une forme de symbolisme, c'est-à-dire le vertige et la chute. On entend d'ailleurs beaucoup le mot le tomber en danse, tomber, puisque le langage français en danse est la langue française est internationale en danse.
Comme l'escrime.
Voilà. Et donc, on se dit, il y a quelque chose là qui est utilisé pour dire la chute aussi, le tomber. Et effectivement, dès qu'on tournoie, à un moment, il y aura chute. Et là, je suis d'accord avec Lucille Como, on ne fait qu'attendre ce moment-là. C'est-à-dire que, autant chez Philippe Faucon, j'ai l'impression que quelqu'un fait un portrait, mais qu'il le déplie vraiment dans toutes ses... et que ce portrait prend de l'ampleur, autant ici, j'ai eu l'impression que le portrait restait dans une forme de psychologie qui finalement ne menait pas à grand chose, sinon à un acte un petit peu spectaculaire à la fin, pour qu'il se passe, j'allais dire, quelque chose.
Ouais. Donc, c'est quand même compliqué de comparer ces deux films-là n'ont pas le même projet. Oui, mais il y a plusieurs façons de faire des portraits, vous me l'accorderez, cher garçon.
Mais je pense que Charlotte Philippe pose une question quand elle dit. Qu'est-ce qu'il veut faire? On voit très bien ce qu'il ne veut pas faire ou ce qu'il veut absolument éviter. Il est très, très intelligent, incroyablement mature pour son âge pour les éviter, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut la regarder naître, il veut la filmer naître, il veut la regarder, telle une chrysalide naître. Et c'est un projet qui, en soi, est un projet de cinéma, comme moi, qui me va complètement. Et qui me passionne dans le film.
Mais elle est déjà née dès le début du film.
Oui,
c'est
mais
ça, il faut le problème.
Mais naître,
naître à soi-même.
Enfin, s'accorder.
Ça fait pas semblant,
Charlotte.
Non, mais parce que
s'accorder à ce qu'on veut.
Non, non, mais je veux dire, elle est déjà née dans son identité sexuelle.
Oui, mais ça prend du temps de passer à l'identité sexuelle. Ça prend du temps d'être ce qu'on est.
Bah, c'est quand même.
Ça prend une et ça prend 1h30 ou 1h40.
Non, parce que tout le projet est tout simplement qu'il y a une disjonction qu'elle ne supporte pas entre elle-même et l'image que lui renvoie surtout le miroir, d'ailleurs moins les autres,
non,
puisque les autres ne sont pas un
elle
problème.
Est impatiente, Lara est impatiente, c'est la transition qu'elle ne supporte pas.
Oui, mais donc ça, finalement, ça réduit la chose à quelque chose de narcissique, disons, d'un problème narcissique qu'il faut dépasser. Et moi, je trouve ça un peu dommage de replier
Charlotte,
le cinéma
c'est pas juste un problème narcissique,
de la psychologie.
C'est pas de la psychologie, c'est de l'assignation de corps, de la réassignation sexuelle, de la transformation, de la mutation. C'est quand même des choses qui sont passionnantes à traiter au cinéma aujourd'hui. Enfin, c'est des questions contemporaines absolument décisives et qu'il faut savoir filmer. Je pense qu'il sait le filmer.
Le style comment ?
Moi, je trouve que justement, l'artifice un peu psychologique, il intervient beaucoup. Je vais vraiment m'acharner sur la figure du père. Mais dans les confrontations avec le père, c'est assez étonnant. Je trouve qu'il y a un immense contraste. Alors, ça tient peut-être à la direction d'acteur, mais du coup, je ne sais pas exactement ce qu'a voulu faire le réalisateur. Entre la manière... extrêmement rude, c'est vraiment très violent, je trouve, la manière dont le personnage de Lara réagit aux questions de son père. Il y a des scènes de voiture où vraiment elle est totalement fermée.
Bah, c'est une adolescente.
Oui, mais je trouve ça extrêmement bien fait. On voit là, justement, l'expression d'une volonté pure de non-questionnement absolu. Il n'y a pas de question, donc espèce de bulldozer d'avancer. Et lui, je trouve qu'il retient un peu en arrière cette volonté-là et il repsychologise le truc, ce qui est presque un non-sens, enfin, du point de vue de ce que vous disiez, à savoir, de toute façon, la question de l'identité, elle est réglée dès le départ. Et à mon avis, dans cette relation de personnage, il y a un problème d'écriture.
Ah oui, alors que moi, je ne l'ai pas du tout senti. Moi, je suis comme Philippe Azori, la figure du père, je trouvais absolument craquant de A à Z, parce que c'est voilà, comment on aime son enfant, quoi qu'il se passe, comment on l'accompagne, comment on est attentif. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment... j'ai pas vu du tout les problèmes que vous évoquez. C'est vrai que j'avais noté aussi, évidemment, que le fait que l'absence de la mère ne soit jamais évoquée, je trouve ça tout à fait magistral.
Moi, j'ai pas compris ce que vous avez compris. J'ai compris que la femme enceinte du film était la mère.
Oui, oui, moi aussi.
La femme enceinte.
Oui,
je crois que les
repas.
Femmes vont vous expliquer le film, messieurs.
Il y a un repas au début du film, en effet, où il y a
une réunion de famille.
Enceinte, et moi, je pense aussi que c'est la mère.
Puisqu'elle dit troisième garçon.
Oui, voilà.
Troisième garçon.
Non, c'est une cousine.
On parle de réunion de famille.
Ah, mais moi aussi, je suis d'accord. J'ai compris. esprit de ça.
Bon, en tout cas, pour dire des choses un peu plus anodines, d'une part, c'est que dans le parcours de transition, il y a des séances chez l'orthophoniste, et moi, il y a une chose qui me plaît énormément dans le film, c'est la voix de Victor Polster, que je trouve vraiment qui donne une charge encore plus forte à son personnage. Et je trouve.
Quand je dis acteur,
il y a un effet de réel et d'étrangeté qui est quand même absolument stupéfiant. Et puis, il y a quand même donc, ce film de danse, et moi, on en avait parlé avec Lucille Comment en sortant de la projection. J'ai beaucoup pensé à Whiplash, et je trouve que Girls, c'est l'exact opposé de Whiplash. Pour rappel, ce film qui est le parcours d'un batteur de jazz avec son maître et des relations forcément de maître à esclave, sadomasochiste, moi c'est un film qui m'avait absolument horripilé. Et ici, je trouve que l'apprentissage est montré d'une façon tout à fait autre. Alors si elle s'inflige des certaines douleurs, Lara, bon, ben, c'est dans un but bien précis, et effectivement dans un environnement qui n'a pas besoin d'être sadique pour faire progresser les gens. Et moi, je suis sensible à cette douceur et à cet environnement bienveillant et attentif, parce que ça existe aussi. Enfin, c'est pas.
Non, mais bien sûr, ça existe. Mais le problème, c'est l'absence de nuance. C'est quand je dis, c'est l'absolu inverse du cliché du film.
Il y a quand même un peu
film,
de creuté, sur... malgré tout.
Il y a un déplacement, c'est juste qu'il le déplace.
Moi, je pense qu'il prend le contre-pied, mais que le contre-pied n'est pas plus réel, enfin, n'est pas plus authentique que l'inverse.
Je pense
en fait,
que on perd les uns comme les autres à essayer de croire ce qui est plus réel et moins réel. Enfin, parce qu'on on le sait pas et on peut rencontrer chacun des exemples tel ou tel. Ce qui est intéressant en termes de scénario, c'est qu'il le déplace. Il déplace l'affrontement familial prévu qu'on voit venir, mais à 20 km pour une inquiétude qui est réelle et une intelligence qui est réelle et qui élève le film bien ailleurs. Et en plus, je pense qu'il vraiment, enfin, le personnage du père qui pourrait être, on voit bien comment, par exemple, le cinéma français très naturaliste l'aurait chargé sociologiquement parlant d'emblée. Le fait qu'il soit chauffeur de taxi, c'est-à-dire quand même très très très
classique, ça arrive à 1h20 du film. Inverse.
Mais non, mais c'est dit au détour d'une phrase.
À 1h20 du film, ça c'est très fin. Moi, je trouve ça hyper maladroit, par exemple.
Ah non, cette scène est incroyable.
On peut pas changer de ville et changer de métier très facilement dans n'importe quel métier. Donc il y a celui-là qui existe.
Une scène où il dit, ton frère a 6 ans, des amis pour en avoir toute sa vie. Moi, j'étais chauffeur de taxi dans une ville, je suis dans une autre. Et la question sociale est réglée comme ça. C'est magnifique en termes d'écriture. C'est réglé.
Bon.
Vraiment, enfin, moi, je
nous avons des amis
très amoureux de ce film.
Et c'est tant mieux.
Et je n'y
croyais
pas en plus.
Ah bah en plus, mais c'est pour ça, c'est la
bonne. Mais
c'est la bonne technique. Il faut le savoir. Quand on va à reculons, on a plus de chances d'aimer, ce qui est logique. Girl de Luc Adant est sorti sur les écrans depuis mercredi. C'est en effet le moment, Philippe, de vous resservir un verre d'eau, car c'est le moment de votre coup de cœur, un autre, puisque Girl en est un, finalement. Alors, pour une sortie en DVD d'une nouveauté, on peut le dire, un film sorti en 1926.
Une ça page... ne vous rajeunit pas.
Je vous rappelle, on s'était vu à la projection de presse. Une page folle de Teinosuke Kinugasa.
Kinugasa,
pardon.
Non, ça ne nous rajeunit pas, même moi, ça ne me rajeunit pas, parce que ce film qui a été longtemps invisible, je l'ai vu il y a au moins une vingtaine d'années à Beaubourg, lors d'une rétro sur le cinéma japonais. Je crois que c'est la première fois qu'il était montré. Ça faisait partie de ces films. C'était Bernard Eisenschitz, l'historien de cinéma. Les plus beaux films sont ceux qu'on n'a pas vus. Et ça faisait partie de ces films qu'on n'avait pas vus. C'est-à-dire qu'il y avait des photogrammes qui circulaient chez les amateurs de cinéma japonais. Comme le film est très, très graphique, très visuel, avec des choses qui semblaient très, très belles, qui étaient même proches de la peinture ou d'une incroyable photographie des années 20. Mais qu'est-ce que ce film pouvait bien raconter ? Personne ne le savait vraiment, parce que le film était déclaré perdu depuis le passage au parlant, qui est en 29 aux États-Unis, qui au Japon doit arriver en 32-33. Et le film part à la casse. Et d'ailleurs, Teinosuke Kinugasa, qui est quelqu'un qui avait fait 10 films en 4 ans, va, un peu comme les gens de l'avant-garde française, type Epstein, va s'arrêter lui aussi progressivement de tourner. Donc c'est des carrières comme ça qui ont un peu disparu, à part que Kinugasa a retrouvé une copie amputée de son film, c'est-à-dire que ce film tel qu'il nous arrive aujourd'hui, lui manquerait à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc il a trouvé une copie du film dans son jardin, à la toute fin des années 80, début des années 90.
Ah, carrément.
Oui. Donc autant que le film soit restauré, c'est depuis un film qui passe quand même, qui a circulé. Il est passé d'ailleurs, enfin, là on s'aperçoit à quoi servent, vous savez, l'année du Brésil, l'année du machin, là c'est l'année du Japon. On voit quand même à quoi ça sert, c'est-à-dire qu'il y a quand même des manifestations incroyablement belles. Il y a un 100 ans du cinéma japonais en ce moment à la Cinémathèque qui est d'une tenue absolument incroyable. Et ils ont passé le week-end dernier une page folle donc de Teinosuke Kinou Gaza, voilà, je le disais bien. C'est comme ça que je l'ai revu, c'est comme ça que j'ai aussi eu envie de vous en parler. C'est aussi comme ça que je me suis aperçu que Lobster, sans doute aussi avec le même appui économique de l'année du Japon, a enfin sorti cette merveille en DVD. Donc ce film...
Alors ça raconte quoi?
Oui, alors ça raconte quoi? Surtout que le scénario est de Shinjiro Tanizaki, prix Nobel de littérature, mais qui à l'époque était encore très très jeune. Ça rencontre quelque chose qui est quand même très très dur à décerner, parce que le film est sans carton. Vous savez, le Japon muet ne cartonnait pas, contrairement à la France ou aux États-Unis. Il y avait un narrateur qui était à côté de l'écran et qui racontait. On n'a pas retrouvé le narrateur. Ce que Kinugasa a laissé comme indication, et Tanizaki aussi, c'est qu'apparemment, ce serait l'histoire d'un marin qui reviendrait et qui changerait de métier pour se faire engager comme gardien d'un asile de fous, pour y retrouver sa femme qui est internée comme folle. Et le film est une association, mais enfin, on est en 26, et le film est à la fois contemporain de l'expressionnisme allemand dans un délire plastique et graphique absolument incroyable, et du surréalisme dans une exploration de l'inconscient, mais également dans une association des images, des rythmes et du montage, qui fait qu'évidemment, on y comprend goutte, mais c'est absolument prodigieux et c'est d'une beauté terrible. Alors, il en manquerait un quart d'heure, 20 minutes, on mettra peut-être 100 ans pour les retrouver, on les retrouvera jamais. Mais au final, c'est même pas un problème. C'est une sorte de Dalu, comme ça. Voilà. J'avais vu il y a 10 ans, je l'ai revu ce week-end à la Cinémathèque, j'ai trouvé ça éblouissant. Et le DVD Lobster qui sort en collection Retour de Flamme, et comme d'hab chez Lobster, c'était vraiment avec un travail de restauration. Enfin, ils sont très très soucieux de ces choses-là, on peut leur faire confiance et c'est absolument impeccable.
Bon, ben voilà, il faut se procurer une page folle chez Lobster, ouais. Le film de Tenozuki, Kinugasa. Mais quiz, qu'entends, ne serait-ce pas une entrée dans le petit salon de Lucille Gaumont? Oui, parce que depuis cette saison, nous retrouvons chaque semaine un petit salon, et ce soir, c'est le cinéma à l'épreuve de la chair.
Prenez de la drogue, mademoiselle Tramel?
Ça m'arrive.
Quel genre de drogue?
Cocaïne. Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick?
Comment tu me trouves?
Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles.
Oui, tout.
C'était pas bien. Si. C'était trop bien.
Allez, les détails.
Il y en a pas.
Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas.
On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout.
C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas?
Attends, on dirait la PJ du sexe.
Le départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428. Embarquement immédiat, porte numéro 37. Emmanuel.
Sumetamoïta.
Si ce titre n'évoque rien pour vous, demandez à vos amis.
But he was more than a cat.
J'ai horreur d'être au milieu. Vous ne voulez pas vous y mettre?
Laissez-moi tranquille. Si je vous gêne, je peux toujours aller dans les pièces à côté.
He moved like them, which turned me on no end.
Arrêtez de déconner. Ne vous rendez pas compte que vous êtes le plus heureux des hommes? Vous êtes dans un pieu avec deux nanas qui vous aiment.
Je veux bien passer au milieu. Laissez-moi dormir.
Alors, la semaine dernière, le journal Le Monde publiait un article qui donnait l'avant-goût d'une rencontre organisée au Bouffes du Nord autour des scènes d'amour dans le cinéma. La rencontre s'intitulait donc « Le cinéma à l'épreuve de la chair » et elle était publiée en vidéo depuis sur le site du Monde. Dans l'article, trois réalisateurs, Claire Denis, Serge Bozon et Abdelatif Kechiche, étaient invités en préambule à leur débat à citer une scène d'amour qui avait compté pour eux. Claire Denis citait à ce titre une scène de Shohei Imamura, « Désir meurtrier », un film de 1964, une étreinte entre l'héroïne et son violeur, entrecoupée de souvenirs d'adolescente de la femme. Serge Bozon, lui, citait une scène de « Place aux jeunes » de Léon Macaré, un film de 1937, durant laquelle une femme âgée parle au téléphone devant une assemblée silencieuse installée à des jeux de cartes, faisant ses adieux à son mari, séparé d'elle par des enfants ingrats. Enfin, Abdelatif Kechiche choisissait la scène d'amour final entre les deux femmes de « Je tue elle » de Chantal Akerman, un film de 1974, comme lieu cinématographique de revendication de la jouissance féminine. Des scènes très différentes, certaines charnelles, d'autres non, je ne sais pas si Bozon avait bien compris le sujet, tellement différentes même que leur évocation compromet presque la cohérence de la discussion et envoie le débat un peu dans le vague. Mais tentons ce soir de considérer considérer la scène d'amour comme une catégorie, comme une scène type. De fait, c'est une question qu'on se pose régulièrement ici à la dispute, comment réussir une scène de sexe au cinéma. Et souvent d'ailleurs, quand on se la pose, c'est que les scènes en question sont mauvaises, artificielles, injustifiées, moches. C'est un grief régulier. Alors, qu'est-ce qu'une bonne scène de sexe au cinéma ? Quand on tape cette formule sur Google, on tombe vite sur un article qui nous donne, je cite, « 5 conseils pour faire l'amour au cinéma », ce qui n'est pas totalement dénué d'intérêt, dans la mesure où la scène d'amour réussie, après tout, ça pourrait être en premier lieu celle qui donne envie de faire l'amour, bref, celle qui est lestée d'une certaine charge érotique. Claire Denis, d'ailleurs, justifie son choix de Désir meurtrier en parlant du trouble qu'elle a éprouvé devant ce film, vu au cœur de l'été, dans sa jeunesse. Premier test, donc, l'excitation. En l'occurrence, la scène d'Imamura est une scène de viol, ce qui nous donne une autre dimension de ce qu'est une scène de sexe au cinéma, un lieu possiblement inconfortable, un lieu de test moral pour le cinéaste et aussi pour le spectateur. Dans le choix de Kechiche, c'est la question du rapport à la norme qui se joue. Pour lui, c'est une bonne scène d'amour parce qu'elle montre la jouissance féminine comme un droit, qui plus est, dans le cadre d'une relation non-hétérosexuelle. Serge Bozon, lui, choisit une scène totalement non-sexuelle, tellement pas, que l'autre est dans le hors-champ du téléphone, on n'entend même pas sa voix, et la femme est entourée de gens qui écoutent sa conversation. Et pourtant, le dialogue touche justement à quelque chose de très intime, de très poignant. Dans la scène d'amour se joue la question aussi du vrai, de l'authenticité, peut-être plus que dans tout autre moment d'un film. Et vous, qu'attendez-vous d'une scène de sexe au cinéma ?
Ce sera toi qui commencera. Charlotte Garçon, allez.
Non, d'abord, faut quand même. Je reviens à ça, mais entre le mot. Moi, je suis choquée que vous employiez l'expression scène d'amour et scène de sexe de manière interchangeable.
C'est ce que fait le monde.
Je ne vous apprends rien, Lucie, mais il y a une différence. Parfois, malheureusement. Bon, alors donc je pense que vous voulez dire scène de sexe.
Oui, mais c'est, je pense que le monde s'est un peu trompé, a dit scène d'amour, donc Serge Bozon a sorti sa scène de Macaré, il s'est rendu compte dans un second temps que c'était pas ça qu'on lui demandait.
Bah alors, choisissons les mots qui... D'accord. Précis. Alors, scène de sexe.
Du coup, moi je vais aussi un petit peu aller dans le sens de Serge Bozon, mais bah, en tiens. Ayant compris qu'on parlait de sexe.
C'est pas mal ça, j'attends de voir. Je suis curieuse.
Me viennent en tête deux scènes chez Stanley Donen. Ça ne vous étonnera pas, non. Je remonte quelques années par rapport aux contemporains. La première, c'est dans Indiscret, 1958. Et vous savez que Stanley Donen aime jouer avec des artifices un petit peu de visuels de mise en scène. Et c'est un split screen dans lequel et c'est une conversation au téléphone, justement, entre Cary Grant et Ingrid Bergman, qui sont amants mais pas mariés. L'un à Londres, l'une à Londres, l'autre à Paris. Et en fait... Par l'artifice du split screen, on les voit chacun dans leur lit le soir au téléphone. Et il se trouve que, sans le savoir, mais nous, spectateurs, nous le voyons, la main de Cary Grant touche les fesses d'Ingrid Bergman. Puisque l'effet de split screen fait que sa main s'approche de la limite et que c'est là aussi où sont situées les fesses d'Ingrid Bergman. Et puis l'autre souvenir que j'ai, c'est dans Ailleurs l'herbe est plus verte du même Stanley Donen, où là, les gens le couple se donne rendez-vous dans Londres, je crois, et on ne voit que les lieux vides où leur programme de soirée chic, c'est-à-dire restaurant, pique-nique d'abord, pique-nique au bord de l'eau, etc., on ne voit que ces lieux entièrement désertés. Et donc on comprend finalement, au bout de plusieurs lieux vides, qu'ils ne peuvent être que dans une chambre.
Oh, Charlotte, oui, je suis un peu... c'est coquin.
Je m'enhardis ce soir.
Je vois ça. Il était temps, après toutes ces années de radio avec nous. Philippe Azoury.
Oui, mais moi aussi, je me suis posé la question. Scène de sexe ou scène d'amour. Surtout moi, sur les scènes de sexe, je suis assez catégorique là-dessus. Enfin, genre, on n'a jamais, on n'a jamais rien fait de mieux que le porno. C'est que les gens ont tendance à penser. Par exemple, je suis très dans la cinéphilie. Il y a ceux qui sont à dire, oh, Jean-Claude Brissot, qu'est-ce qu'il filme bien les scènes de sexe, alors que le porno c'est dégueulasse. Moi, je trouve ça beaucoup mieux filmé dans le porno que chez Jean-Claude Brissot. Je vois, vraiment, le porno fait le boulot de façon magnifique, bien. Le problème, c'est que la mémoire après, c'est-à-dire que j'ai commencé à essayer de me rappeler d'un porno que j'aimais bien. Il y en a quand même beaucoup. Ça fait, je vais pas vous dire Hongrie de plaisir, volume 19 ou des trucs comme ça, parce que ça n'a aucune, enfin, en termes de référence cinéphile, ça n'a à peu près aucun sens. C'est la répétition d'une première fois, voilà, à chaque fois. Par ailleurs, j'ai aucune envie de vous décrire une scène porno que j'aime bien, parce que, enfin, je pense que France Culture n'est pas le lieu de cette indiscrétion-là. Donc je me suis retrouvé à essayer de trouver dans ma cinéphilie, donc hors pornographie, même si ma cinéphilie est quand même très très pornographique, donc hors phonographie, qu'est-ce que je trouve? Bah, oui, effectivement, je retrouve de la même manière que Charlotte retombe sur Stanley Donen. Moi, je suis tombé à la fois sur Eustache ou Garrel. C'est vraiment des choses qui me sont très très auxquelles je suis très très attaché. Un peu parce que c'est deux scènes qui, d'une certaine manière, se donnent la main. La scène chez Eustache. Lucille le disait tout à l'heure, c'est quand on tape sur Google La maman et la putain, ça revient très souvent, on l'a même entendu dans... Mais ce qui est très très beau dans La maman et la putain, c'est cette longue scène après l'amour, lorsqu'ils sont Françoise Lebrun et Jean-Pierre Léaud nus sous les draps, et que pendant 20 ou 30 minutes, on ne sait même plus, on est avec eux, on est une petite souris ou une mouche avec eux, ils se parlent avec un ton de voix qui est particulier, ils écoutent la radio, le prédicateur du petit matin. Il se raconte des choses qu'on ne se raconte qu'une fois qu'on a fait l'amour. Et c'est cette façon dont les corps et la chair continuent de dialoguer, mais cette fois-ci avec le relais de la parole, que je trouve absolument magnifique et à nu à cet endroit-là. Et cette scène, pour moi, elle a été perpétuée dans Liberté de la nuit de Philippe Garrel, Philippe Garrel de 1983, dans lequel il y a à la fois Christine Boisson et Maurice Garrel. Et c'est une scène qui est troublante, enfin, en termes de mise en scène et de cinéma, parce que c'est un homme et une femme. Ce sont un homme et une femme ayant fait l'amour, eux aussi, dans des draps, nus, comme un homme, juste comme un homme, ce ne sont plus des personnages, ce sont plus. Et l'acteur, qui est à peu près, Maurice Garrel doit avoir à peu près 55, 60 ans, Christine Boisson doit en avoir 30, donc il y a une différence d'âge qu'on ne ressent pas. Et surtout qu'on ne ressent pas que l'homme qui est derrière la caméra et qui filme est le fils de l'homme qui joue. Et tout ça qui, quand même. Cette scène ne devrait pas marcher, ne peut pas marcher sur le papier. Tu vas pas filmer ton père qui a 30 ans de plus que l'actrice. Si, il le fait. Et il y a un degré de nudité à tout niveau dans les dialogues, dans le décrochage du son, parce qu'on entend le piano de Fatone Cahen à un moment donné qui recouvre, comme souvent dans le Garrel de cette période-là, 80, 85, qui vient recouvrir le dialogue et qui les laisse à leur solitude. Et la très très grande solitude de Christine Boisson à un moment donné, qui est par ailleurs. Quittera ensuite le film, enfin pas à l'intérieur du scénario. Voilà, c'est une scène pour moi d'amour. Ouais. Pour les scènes de cul, je sais où aller.
Alors peut-être je vais vous faire une réponse concrète. Moi je cite toujours My Own Private Idaho de Gus Van Sant, qui a trouvé une façon formelle de filmer une scène de sexe très simple, c'est-à-dire c'est une succession de plans fixes entrecoupés de noires images. On voit souvent à deux, à trois ou plus de ces acteurs qui sont dans des positions de coït, mais à chaque noire image, il y a une autre position. Enfin, c'est très simple, ça ne dure pas toujours très longtemps, évidemment, ce type de choses, mais au moins ça montre quelque chose de la crudité du rapport, mais
il y a du son.
Oui, il y a une musique, mais pas de son, pas de son de scène de sexe. C'est vraiment
pas de râle,
pas de râle. Et alors sinon, soit alors deux options, soit l'ellipse hollywoodienne qui me va très bien. Moi, je préfère la caméra glisse sur le feu de cheminée. Je trouve ça impeccable. Je préfère. Ou ça, c'était aussi un choc de cinéma pour le coup à Cannes. Première projection de La vie de Jésus de Bruno Dumont, qui signe une scène de sexe avec une pénétration réelle dans un film d'auteur. C'était une doublure pour le coup, c'est un acteur du monde porno, mais il y a une scène de sexe et elle n'est pas simulée. Elle est montrée très frontalement et ça, j'avais trouvé ça effectivement très, très fort à l'époque. Ça remonte à 25 ans maintenant, plus de 20 ans. Oui. Et vous, Lucille Comeau?
Non, mais ce que je remarque surtout, c'est que vous citez ou des scènes qui sont du coup des ellipses, ou à l'inverse, des scènes totalement explicites jusqu'à la non-simulation. Mais des scènes jouées de sexe, ça existe dans 95% des films qu'on voit.
Je trouve ça horrible.
Et alors, et pourquoi?
Non, mais c'est parce qu'elle ne veut pas répondre et qu'il reste une minute.
Je vous dis pourquoi, parce que j'ai un entretien sur Amine par Emmanuel De Vos qui dit ces scènes étaient à la fois très gênantes et très rigolotes. Pour que Mustapha puisse mimer le cunnilingus, on m'avait harnaché avec deux couches pampers au niveau du sexe. Voilà, voilà pourquoi.
Non, voilà mais, pourquoi je veux dire, ça ne marche pas.
Parce que Pomper.
c'est ça aussi
le cinéma.
Alors, Lucille.
Non, alors moi je vais citer un film récent, mais d'ailleurs j'en avais parlé quand on en avait fait la critique. C'est Burning de Lee Chang-dong, qui est le film coréen, dans lequel il y a plusieurs scènes à la fois de sexe entre une femme et un homme qui est filmé plus ou moins en caméra subjective. On voit comme si on était à la place du visage de l'homme au-dessus de la femme et l'homme est absolument tremblant. Du coup, la caméra tremble aussi, c'est magnifique. Et des scènes de masturbation masculine aussi, comme j'ai rarement vu au cinéma. Ça m'a vraiment marqué. C'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé en préparant le sujet.
Voilà, on a tous nos réponses concernant cette question très indiscrète du petit salon de Lucille Comeau. Comment ça, pas du tout? Mais bien sûr que si. Vous voyez que nous sommes mis à nu devant vous ce soir. On ne posera pas la question à Sarah Dion, qui n'est pas là pour ça, qui est là pour le jeu de la dispute. Sarah, comme chaque soir, nous donner d'abord, nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse.
Quelle a été l'activité du 104 pendant plus de 120 ans avant sa reconversion artistique?
La réponse?
Les pompes funèbres.
Et oui, ce soir, on fait gagner des places pour un spectacle. Le spectacle, c'est Laika, d'Ascanio Celestini. Ce seront des places à gagner pour samedi 20 octobre à 21h au Théâtre du Rond-Point à Paris. Quelle est la question, Sarah?
De quel courant théâtral Ascanio Celestini se revendique-t-il?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr retrouver nos émissions à écouter et vous abonner au podcast. Lundi à 19h, il y aura un nouveau petit salon, parce que c'est en jour glissant, donc forcément quand c'est le vendredi, eh ben, il y a le lundi qui suit. Après l'ouverture de la Scala à Paris, quoi de neuf dans le théâtre privé? Ce sera la question moins intime qui nous sera posée. On parlera également de la Dame aux Camélias, d'après Alexandre Dumas-Fils, mise en scène Arthur Nosiciel, et Western, d'après le film La Chevauchée des Balines d'André Le Tot, mise en scène de Mathieu Bauer.